Vous écoutez On lit pour vous.
À travers champs, un texte de Joël Leblanc, publié dans l'actualité édition de juin 2026. En sous-titre, pour enrayer la pollution des cours d'eau causée par l'agriculture, il s'agit d'installer un filtre aux champs. Les chercheurs québécois testent leur invention. Elles sont belles, elles sont grosses, les laitues et les carottes qui poussent dans les champs du Québec. Mais pour arriver à fournir les légumes, à la fois abondants et abordables, réclamés par les épiciers et les consommateurs, les cultivateurs n'ont pas vraiment le choix. Ils utilisent des pesticides et des engrais, non sans conséquence pour l'environnement. Tout comme le rinçage à l'eau fraîche débarrasse une laitue des dernières traces de contaminants, la pluie fait la même chose dans les champs. Et cette eau, chargée de résidus, se répand jusque dans les ruisseaux et rivières situés en milieu agricole. Pesticides différents ont été détectés dans deux ruisseaux typiques du bassin versant de la rivière Châteauguay en Montérégie par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs en 2019 et en 2020. Puis en 2025, révèle des concentrations parfois jusqu'à 1000 fois trop élevées pour la survie de certains organismes aquatiques. Citation, contrairement au rejet d'une usine, on ne peut pas établir une source ponctuelle responsable de la pollution. C'est tout le territoire agricole qui relâche de façon diffuse des contaminants invisibles au fil des pluies. Fin de citation, souligne Mathieu Lapointe, professeur à l'École de technologie supérieure de Montréal et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la protection des ressources en eau et de l'environnement. Dans un tel contexte, difficile de réduire la pollution à la source. Mais pas impossible, selon les essais menés par l'équipe du chercheur. Citation, tôt à la sortie du champ, et on tente d'en retirer les principaux polluants avant de la relâcher dans les fossés, explique Mathieu Lapointe, fin de citation. Car un champ n'est pas qu'une grande passoire, dit Morane Béliveau, chargé de projets chez Soleno, une entreprise spécialisée, notamment en solutions de drainage agricole, qui participent aux tests sur le terrain. Citation, sous un champ, à environ un mètre sous terre, il y a des drains, de longs tuyaux de plastique munis de petits trous sur toute leur longueur, placés en moyenne tous les 10 mètres, détaille la chargée de projet. Lorsqu'il pleut, l'eau pénètre dans le sol, la terre en garde une partie, mais le trop-plein entre dans ces tuyaux par les trous et est évacué. Fin de citation. Les tuyaux sont connectés à un drain principal au bout du champ qui, lui, se jette dans un fossé. L'idée de Mathieu Lapointe, installer un filtre à la fin de ce parcours, juste avant que l'eau n'atteigne le fossé. Citation, ça rappelle un peu un filtre de piscine, illustre-t-il. L'eau passe dans un tuyau rempli de sable dont les grains ont été préalablement enrobés d'un enduit qui contient des métaux et des polymères, et qui a la propriété de retenir le phosphore et certains pesticides. Citation, on travaille encore sur la recette de cet enrobage. Fin de citation. Les résultats préliminaires des tests menés dans quelques champs de la Montérégie sont encourageants. Plus de 90 % du phosphore et des matières en suspension sont retenus. Quand l'invention aura fait ses preuves dans différents milieux, elle pourra être proposée aux cultivateurs. Avec le plan d'action 2020-2030 pour une agriculture durable proposé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, qui vise entre autres à réduire de 15 % la concentration en phosphore de nos cours d'eau, l'innovation arrive à point nommé. Citation, c'est bien de fixer des cibles de réduction, mais il faut donner aux agriculteurs les moyens de les atteindre. Fin de citation, avance Mathieu Lapointe, pragmatique. L'invention de son équipe pourrait bien fournir une partie de la solution. Fin de ce texte de Joël Leblanc, titré « À travers champs », publié dans l'actualité édition de juin 2026.
Le gouvernement Carney attaqué en justice pour ses reculs climatiques. Un texte de Valérie Simard, paru le 16 juin 2026 dans La Presse. Trois jeunes Canadiennes et des organisations de défense de l'environnement poursuivent le gouvernement Carney en justice pour le démantèlement de plusieurs mesures de son plan climatique. Le groupe estime qu'Ottawa n'a plus de plan crédible pour atteindre sa cible climatique de 2030. Le recours a été déposé lundi, le 15 juin 2026, à la Cour fédérale par Éco-Justice au nom de Sophia Mather, Marie Maltais, Shirley Barnia, l'Association canadienne des médecins pour l'environnement, CAPE, et Environmental Defense. Le groupe allègue que l'abandon de mesures clés du plan climatique fédéral contrevient à la loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité, LCRMC. Au cours de la dernière année, nous avons vu le gouvernement Carney affaiblir, retarder et abroger les principales politiques climatiques du Canada sans proposer d'alternatives crédibles pour combler le vide, a dénoncé Charlie Hatt, directeur du programme Climat pour Éco-Justice, lors d'une conférence de presse tenue mardi à Ottawa. Les groupes environnementaux critiquent depuis plusieurs mois le premier ministre Mark Carney pour ses reculs environnementaux. Dans la dernière année, il a abandonné la taxe carbone pour les consommateurs, abrogé l'obligation de vente de véhicules électriques, ouvert la voie à la suppression du plafond d'émissions imposé aux producteurs de pétrole et de gaz et augmenté les subventions aux combustibles fossiles. Ce virage a mené à la démission de l'ancien ministre de l'Environnement et député libéral, Stephen Guilbeault. En vertu de la cible fixée pour 2030, le Canada doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40 % sous les niveaux de 2005. Le deuxième rapport d'étape sur le plan de réduction des émissions pour 2030, publié en décembre, démontre toutefois que le pays ratera sa cible. Les jeunes méritent une économie durable, des emplois verts de qualité et un gouvernement doté d'un plan crédible pour nous permettre d'y parvenir, a déclaré l'étudiante montréalaise Shirley Barnier. J'ai un attachement profond pour ma ville natale, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. C'est un attachement qui me pousse à vouloir la protéger, a témoigné la jeune militante Marie Maltais. J'ai vécu des expériences qui sont malheureusement devenues monnaie courante pour bon nombre de jeunes Canadiens. J'ai été témoin à plusieurs reprises d'un ciel orangé, d'un air rendant difficiles les activités de plein air, d'hivers de plus en plus courts et de printemps marqués d'inondations. Dans le cadre de ce recours en contrôle judiciaire d'une décision administrative de l'EDA, les requérants demandent au tribunal d'ordonner au gouvernement de réviser son plan de réduction des émissions pour 2030. En omettant de se plier à cet exercice prévu par la loi, le gouvernement évite ainsi d'avoir à consulter les Canadiens, a critiqué Charlie Hatt. La LCRMC, adoptée en 2021, établit un cadre pour atteindre la carboneutralité en 2050. Elle stipule que le ministre doit préparer un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre chaque cible. En cas d'échec, le ministre doit expliquer les raisons pour lesquelles le Canada n'a pas atteint la cible et décrire les mesures que le gouvernement entend prendre pour remédier à la situation. Les requérants espèrent que la Cour fédérale tiendra compte de l'objectif de la loi qui est de responsabiliser le gouvernement. Invité à réagir, le cabinet de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Julie Dabrussin, a assuré que le gouvernement du Canada s'engage à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Comme cette matière est actuellement devant les tribunaux, nous ne pouvons pas commenter davantage, a répondu, par écrit, Kian Nembhard, l'attaché de presse de la ministre. Les jeunes au front. Il s'agit de la première fois que le gouvernement fédéral est attaqué en justice en vertu de cette loi. Par le passé, le gouvernement du Canada s'est déjà fixé des objectifs qu'il n'a pas atteints, alors qu'il n'existait pas encore de loi sur la responsabilité climatique comme celle-ci, a précisé Charlie Hatt. Sophia Mather, l'une des requérantes dans cette affaire, est à la tête d'un groupe de jeunes qui poursuivent le gouvernement de l'Ontario en justice pour avoir revu à la baisse l'objectif climatique de la province pour 2030. C'est consternant de constater qu'à l'heure actuelle, le gouvernement n'a toujours pas pris les mesures qui s'imposent pour protéger notre environnement et notre avenir, a-t-elle déploré. Au fédéral, une autre cause, basée sur la Charte canadienne des droits et libertés, est en attente d'être entendue. Les 14 plaignants, dans l'affaire Rose, soutiennent que les actions du gouvernement visant à perpétuer la crise climatique sont une violation des droits fondamentaux. En 2022, la Cour suprême du Canada avait refusé d'entendre l'organisme Environnement Jeunesse, qui souhaitait intenter une action collective contre le gouvernement fédéral au nom de tous les Québécois de 35 ans et moins. C'était le gouvernement Carney attaqué en justice pour ses reculs climatiques. Un texte de Valérie Simard, paru le 16 juin 2026 dans La Presse.
Un joyau collectif toujours aussi précieux. Un texte de Léa Lemieux, paru le 13 juin 2026 dans La Presse. Un havre de paix. C'est ainsi que la Montréalaise Judith Picard, jeune retraitée, décrit le Mont-Royal. Elle y va pour marcher, faire du ski de fond ou arracher bénévolement des plantes envahissantes. Au moment où le parc du Mont-Royal fête son 150e anniversaire, elle souhaite que ce joyau collectif reste protégé. Tam-tam du dimanche, promenade et chaloupe au lac aux castors, panorama à partir des belvédères, découverte de l'oratoire Saint-Joseph, rassemblement militant au pied du monument à Sir Georges-Étienne Cartier, le parc du Mont-Royal est à la fois un terrain de jeu, un lieu de mémoire et le poumon vert de la métropole. La montagne fait partie de notre patrimoine historique, culturel, naturel, souligne Mme Picard. Elle conserve précieusement des photos de ses beaux-parents en ski de fond dans les années 1940 sur le Mont-Royal, preuve de l'importance que le parc occupe dans la vie des Montréalais depuis longtemps. « C'est un lieu de nature en pleine ville et c'est à nous de le préserver », ajoute-t-elle. Ce quotidien près de la montagne, l'actrice et autrice Christine Beaulieu en connaît aussi quelque chose. Depuis 6 ans, elle habite au pied du Mont-Royal. « La montagne fait partie de ma vie au quotidien », dit-elle. « Je la marche, je la cours régulièrement. Chaque fois, je me sens tellement chanceuse. » Sa végétation abondante est un refuge lors des chaleurs estivales. On peut voir une différence de température de 10 degrés entre le parc du Mont-Royal et le centre-ville, explique Charles Caron, responsable à la programmation grand public pour les Amis de la montagne. Les Montréalais adeptes de plein air, de course, de ski de fond ou de vélo s'y rassemblent toujours en grand nombre, selon la saison. Le ski de fond a connu un véritable boom de popularité grâce à la pandémie, souligne Richard Lécuyer, instructeur pour les Amis de la montagne qui fréquente le Mont depuis les années 1980. Environ 7 millions de personnes ont fréquenté le parc du Mont-Royal dans la dernière année, selon M. Caron. Le site occupe la première place de la liste des attractions à visiter dressée par Tourisme Montréal. C'est le premier endroit que Nathalie et Philippe Dupiré, deux Français en voyage, ont voulu voir à leur arrivée à Montréal. « Franchement, c'est joli, il y a de l'espace, il n'y a pas trop de monde », observe Philippe Dupiré. C'est malade d'avoir des sentiers en montagne. C'est la seule possibilité qu'on a ici à Montréal, explique Julien Dion, qui court dans le parc deux ou trois fois par semaine. C'est ma petite oasis de nature, mais en ville. Je n'habite pas très loin. C'est une reconnexion avec la nature chaque fois. Des festivités sur la montagne. Plus de 70 activités seront organisées pour souligner le 150e anniversaire. L'Orchestre métropolitain sera de retour pour un spectacle en plein air au pied du Mont-Royal avec la participation d'Élise Appy et des petits chanteurs du Mont-Royal le 5 août 2026. Un parcours lumineux immersif de 2 km intitulé Ancestra Lumina sera inauguré dans le cimetière Notre-Dame-des-Neiges à l'automne. Signé par Moment Factory, l'expérience honorera les bâtisseurs du Québec reposant au cimetière. Au cours de l'hiver, il sera également possible de patiner avec les hockeyeuses de la Victoire de Montréal à la patinoire du parc Jeanne-Mance. Des bâtiments à rénover. Après un siècle d'existence, certains bâtiments du parc nécessitent des travaux. La maison Smith est en rénovation depuis l'automne et rouvrira plus tard que prévu. À la suite d'un dégât d'eau sur le chantier, sa réouverture est reportée au printemps 2027, précise une porte-parole de la Ville de Montréal par écrit. Environ 40 % du stationnement près du bâtiment patrimonial sera transformé en zone végétalisée afin d'agrandir les espaces verts du parc. La croix du Mont-Royal sera aussi éteinte pendant plus d'un an pour des travaux d'entretien. L'immense chalet centenaire du belvédère Kondiaronk n'abrite que des toilettes et un café pour le moment. Une réflexion spécifique est en cours au sujet de l'usage et de la mise en valeur du chalet, affirme la Ville de Montréal. Lors d'une consultation citoyenne en 2013, diverses idées avaient été évoquées. Un restaurant, un lieu de réception ou l'aménagement d'un lieu de détente. 7 millions y ont été investis pour des rénovations en 2022, mais aucun usage particulier n'a été déterminé. Beaucoup d'efforts sont consacrés à la protection de la nature du parc, à la végétalisation des sentiers informels, par exemple. Souvent, les gens s'inventent des sentiers dans des milieux fragiles, explique Robert Y. Girard, président de l'association Héritage Montréal. Malgré les clôtures installées dans certains secteurs, des zones de reboisement et de replantation sont souvent piétinées par des visiteurs qui sortent des sentiers, rapporte-t-il. La ville devrait mettre en place plus de surveillance, selon lui. Des milliers d'arbres ont aussi été plantés dans les dernières années pour compenser les 10 000 infectés par la grille du frêne qui ont dû être abattus. Charles Caron des Amis de la montagne souhaite qu'il y ait d'autres améliorations. Je pense à un nouveau lieu d'accueil moderne pour les groupes d'enfants, pour accueillir le plus de monde possible, s'enthousiasme-t-il. Christine Beaulieu espère que ce 150e anniversaire permettra aux Montréalais de réaliser la chance qu'ils ont. Il y a 150 ans, des gens se sont exprimés pour protéger le Mont-Royal. C'est grâce à eux qu'on profite aujourd'hui de la montagne, souligne-t-elle. Il faut continuer, nous aussi, d'accorder le plus de valeur possible aux îlots naturels, aux écosystèmes encore préservés, parce qu'on voit dans le temps à quel point c'est de plus en plus précieux. C'était un joyau collectif, toujours aussi précieux. Un texte de Léa Lemieux, paru le 13 juin 2026 dans la presse.
La crise silencieuse de la tuberculose au Nunavik. Un texte de Félix Lebel, paru le 15 juin 2026 sur le site ICI Terre-Neuve et Labrador. Les communautés inuites du nord du Québec font face à une augmentation sans précédent des cas de tuberculose, une maladie contagieuse et potentiellement mortelle qui passe entre les mailles du filet des autorités de santé publique. À Koulivik, est une des 8 communautés du Nunavik qui connaît présentement une éclosion de tuberculose. Au début du mois de juin, une 20aine de cas y avaient été déclarés. C'est beaucoup trop, souligne la chef adjointe infirmière du CLSC du village, Jennifer Moisan. La travailleuse de la santé n'a jamais vu un taux de transmission aussi élevé depuis qu'elle est arrivée au village en 2022. C'est à l'image du reste de la région, où 116 cas ont été recensés parmi les 14 villages en 2025, un record absolu. L'année 2026 s'annonce tout aussi inquiétante, avec déjà près de 60 cas en ce mois de juin. Évolution du nombre de cas de tuberculose au Nunavik entre 2021 et 2025. En 2021, 18 cas. En 2022, 38 cas. En 2023, 78 cas. En 2024, 95 cas. En 2025, 116 cas. Des conséquences bien réelles. Même si la maladie se traite aujourd'hui relativement bien, elle demeure mortelle si elle n'est pas prise en charge. Tumasi Anota, 25 ans, l'a appris trop tard, et de manière tragique. Le jeune homme a perdu sa conjointe en février dernier, des suites d'une tuberculose non traitée. Le couple avait reçu un diagnostic de tuberculose latente un an auparavant. Cette forme de la maladie peut rester en dormance dans le corps durant des années, avant d'être activée et de se propager dans le corps. On ne le prenait pas au sérieux. On pensait qu'on n'était même pas malade, explique le jeune homme, qui doit maintenant s'occuper seul de ses 3 enfants. Il déplore le manque de sensibilisation sur les conséquences de la maladie, surtout auprès des jeunes. Plusieurs disent que ce n'est pas grave si on ne prend pas les médicaments. Mais il faut écouter les médecins, et ça ira bien après. Tu ne perdras pas un être cher, témoigne le jeune résident d'Akolivik, encore ébranlé par cet événement tragique. Une réponse immédiate. Face à l'éclosion au village d'Akolivik, une équipe d'infirmières de la Régie régionale de santé et des services sociaux du Nunavik, RRSSSN, est arrivée en renfort. Ils ont lancé récemment un dépistage populationnel avec l'objectif de freiner l'épidémie. Les infirmières font du porte-à-porte et se rendent dans les différents lieux de travail pour offrir aux habitants la possibilité de faire un test par crachat. Sans l'aide de travailleurs locaux, les 2 infirmières peinent toutefois à convaincre les habitants de participer au dépistage. Il y a beaucoup de craintes et de manque d'informations. C'est une maladie à traitement obligatoire, ce qui veut dire que c'est imposé par la loi. On voit qu'il y a une crainte d'être mis en état d'arrestation pour être obligé d'être traité, déplore Jennifer Moisan, qui constate un manque de confiance envers les travailleurs de la santé. Le maire du village, Larry Hubert, constate lui aussi l'impact qu'a cette méfiance sur les mesures de dépistage. Il croit que la clé réside dans une meilleure intégration des Inuits dans les équipes soignantes. Ça doit être une approche locale et permanente, parce que lorsque les travailleurs de la santé repartiront, la tuberculose risque de reprendre du terrain, craint le maire. La RRSSN fait des efforts en ce sens, avec l'embauche d'agents de santé publique locaux. Toutefois, elle peine actuellement à recruter dans chaque village. Une erreur historique. Ce manque de confiance est aussi attribuable au fait que, durant les années 1950 et 1960, les Inuits atteints de la tuberculose étaient systématiquement envoyés de force dans des établissements de santé du Sud. Certains n'en sont jamais revenus et leurs familles se retrouvaient sans nouvelles. Elisapi Alik a été témoin de ce système qui déracinait les Inuits de leur communauté. Sa propre mère a été traitée de force dans un hôpital de Hamilton, en Ontario. Elle a survécu à la maladie et est finalement revenue au village après 2 ans, mais la stratégie des autorités de santé de l'époque l'a marquée, tout comme le reste de sa famille. Elle est restée durant 2 années complètes et ne pouvait pas se lever du lit. Il y avait beaucoup de patients à l'époque, mais aucune communication, pas de téléphone, se souvient Elisapi Alik. Cette époque est aujourd'hui heureusement révolue. Toutefois, en raison des capacités de dépistage limitées dans les communautés, les patients doivent souvent être envoyés par avion dans les centres de santé de Puvianituk et de Kojoak afin d'y subir une radiographie des poumons. La chercheuse Inuk Natasha Ita MacDonald a récemment classé ce facteur comme une embûche importante aux mesures de lutte contre la tuberculose dans le cadre d'une vaste étude dont elle est la co-auteure. Une mère qui doit laisser son enfant, c'est inacceptable, et on comprend pourquoi il y a un manque de confiance envers le système, surtout quand tout est basé autour des programmes de dépistage, alors que les droits et les besoins des individus sont mis de côté, se désole la chercheuse. L'aspect coercitif du traitement obligatoire de la maladie contribue aussi, selon elle, à ce climat de méfiance. Il faut mettre la personne au centre des soins en arrêtant les manières de faire coloniales. Ce que je veux dire, c'est que la valeur de la vie des Inuits est toujours traitée de manière moins importante que celle des Allochtones. Ça doit arrêter, ajoute Natasha Ita MacDonald. Une crise de justice sociale. Au-delà des erreurs du passé, la tuberculose prolifère grâce aux conditions de vie toujours difficiles dans la région. La bactérie, qui se transmet par l'air, trouve un terrain idéal dans les logements surpeuplés et mal ventilés où plusieurs générations partagent un espace trop petit. Pour la directrice régionale de santé publique, la docteure Marie-Jo Wimet, cette épidémie dépasse le cadre médical. Il s'agit, selon elle, d'un enjeu de justice sociale. Si on investissait adéquatement pour avoir de nouvelles infrastructures adaptées au contexte, suffisamment de logements pour éviter le surpeuplement, si on était capable d'enrayer l'insécurité alimentaire, la pauvreté, on ne serait pas face à cette crise-là, dénonce-t-elle. Le manque d'espace clinique dans les communautés, les limites de capacité de dépistage et la pénurie de personnel réduisent aussi grandement l'efficacité des équipes sur le terrain, selon la docteure Wimet. C'est un point de vue que partage par ailleurs la directrice de la Régie régionale de santé et des services sociaux du Nunavik, Jennifer Monique Watkins. Cette dernière ne mâche pas ses mots face à ce qu'elle considère comme un manque de soutien de la part du gouvernement provincial. La région lutte sans enveloppe budgétaire consacrée à cette épidémie, ce qui force les hôpitaux à puiser à même leur budget courant pour faire face à la crise. J'ai l'impression qu'ils s'en fichent, ou c'est peut-être autre chose. Nous ne valons pas la peine d'être aidés davantage pour faire baisser les cas de tuberculose ? A demandé la gestionnaire sur un ton ému. De son côté, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec dit prendre la situation très au sérieux, mais n'a pas confirmé d'enveloppe récurrente pour lutter contre la maladie. Pour ce qui est d'accorder des ressources additionnelles, il est à noter que le renouvellement de la convention de services et de financement entre la RRSSN et le MSSS est en cours, explique le ministère par courriel. Alors que les discussions sont en cours avec le ministère pour obtenir plus de ressources, Jennifer Monique Watkins réclame la parité des soins avec les grands centres. Pourquoi dois-je me battre encore plus pour obtenir les mêmes services que le reste de la province? Je veux juste l'égalité. C'est tout ce que je veux. Rien de plus, rien de moins. C'était La crise silencieuse de la tuberculose au Nunavik. Un texte de Félix Lebel, paru le 15 juin 2026 sur le site ICI, Terre-Neuve-et-Labrador.